Perléon Dufour, depuis quelques années, le personnage de Jésus est devenu, si on peut dire, extrêmement populaire. On a connu un Jésus hippie, on a connu aussi un Jésus superstar, un Jésus révolutionnaire. Vous êtes historien, vous avez consacré une grande partie de votre vie justement à l'étude de Jésus-Christ. Qu'est-ce que vous pensez de tous ces portraits de Jésus-Christ ?
Je pense que ces portraits ne m'étonnent pas du tout. Il y en a toujours eu. Quand je pense par exemple à Renan, il a fait un portrait de Jésus, le doux rêveur galiléen, peut-être sans doute parce qu'il avait une attache particulièrement étroite avec sa sœur et qu'il voyait un Jésus entouré de femmes. Mais aujourd'hui, on prend un Jésus qui fait la révolution ou bien qui était un superstar. Et ce qui m'ennuie au point de vue de l'historien, c'est que dès qu'on fait un portrait de ce style-là, il faut savoir qu'on réduit la personne de Jésus. Elle n'est plus exactement ce qu'elle est. On a projeté ses propres désirs sur cette personne et on idéalise ce que l'on voudrait, que sa façon de voir les choses. À ce titre-là, l'historien ne peut qu'être agacé par ça. Et d'autre part, il est certain que ces différents portraits manifestent l'ampleur du mystère de la personne de Jésus qu'on n'arrive jamais à étreindre. Mais il est par-delà toutes les formules.
Alors avant de vous poser la question qui est Jésus-Christ, j'aimerais justement vous demander comment peut-on connaître Jésus-Christ ? Comment peut-on arriver à ce mystère, à cette vision totale de Jésus-Christ, si c'est possible, évidemment.
Je ne pense pas que l'on puisse, que l'on doive ramener la connaissance de Jésus-Christ à ce que, par exemple, nous autres exégètes nous faisons. Certainement pas. Pour moi, il y a le chemin de la connaissance de Jésus-Christ, c'est le contact avec des saints. C'est le Christ vivant qui, lui, alors, me rend présente la personne de Jésus. Mais il n'y a pas que des saints. Il y a aussi un homme, peut-être un exemple, un modèle. Il y a aussi le fait de la parole. On peut rencontrer Jésus à travers la parole. Mais la parole et le saint, eux-mêmes, se réfèrent, se rapportent toujours à un texte.
Mais quand vous dites la parole, vous voulez dire la prédication de l'Église ?
Prédication, catéchèse. Autrement dit, c'est je rencontre de ma vie à l'aide d'une parole. Je justifie ce que je vis. Or, cette parole, elle change avec le temps. Le saint, il est saint, il meurt. Tandis que le texte demeure. Il est toujours là, le texte. Alors, c'est un peu cela que nous sommes chargés d'examiner. Qu'est-ce que c'est que ce texte ? Alors, notre problème, c'est d'arriver à faire que ce texte devienne parole.
Alors, vous examinez ce texte, c'est le moyen privilégié pour connaître Jésus-Christ. Alors, pour vous, justement, qui êtes exégète, j'oserais vous demander maintenant, qui est Jésus-Christ ?
Jésus-Christ, pour moi, exégète. Eh bien, il faut dire que j'ai eu une évolution, comme je pense la plupart des gens qui travaillent. J'ai commencé par recevoir la foi. Et puis, un beau jour, je me suis posé des questions, j'ai dit, mais enfin, qu'est-ce que disent les textes ? Alors, j'ai constaté que nous avons des textes qui sont très valables. Les sources que nous avons, ce sont des sources qui ont une qualité supérieure. Quand on pense, par exemple, que les manuscrits que nous avons des Évangiles et du Nouveau Testament datent peut-être parfois, au moins pour Saint Jean, de 100 ans après son édition. Tandis que pour, voyons, Virgile, je crois bien que c'est 4 siècles, et pour Euripide, 18 siècles. Il y a un espace de 18 siècles entre le manuscrit d'Euripide et son origine. Donc, des manuscrits de toute confiance. Ensuite, il faut dire tout de même que les sources ne sont pas mauvaises, puisque, contrairement à ce que certains écrivent, les manuscrits des évangiles datent d'entre, mettons, 67 à 100. L'évangile de Luc étant vers 90 par là, mettons, donc très proche tout de même des événements. Ces sources sont donc tout à fait valables pour moi.
Oui, mais justement, vous posez là un autre problème, vous parlez de sources, n'est-ce pas ? Vous parlez donc des évangiles. Oui. Pourquoi il y a des évangiles et pas un évangile ?
Eh bien, heureusement qu'il y en a plusieurs. Parce que c'est une chose que je veux avoir approfondie très lentement, et c'est que s'il n'y avait qu'un évangile, on serait lié à une façon de voir. Le fait qu'il y a quatre évangiles permet de regarder le mystère selon différentes approches. Et ce sont ces quatre approches, ces quatre visées qui permettent de s'approcher quelque peu du mystère qui est derrière, qui est toujours au-delà de la prise.
Alors pourquoi pas les mettre en un seul? Il y en a quand même quelques-uns
qui ont tenté de choses pareilles. On a essayé de le faire dès le IIe siècle. Il y a eu les fameuses histoires des quatre évangiles en un seul. Ça aboutit à une condamnation. Je ne suis pas pour les condamnations en général. Mais enfin, dans le cas présent, ce n'était pas mauvais d'avoir empêché cette réduction de Jésus. Parce qu'il y a une pluralité de perspectives. Et ce comportement même de l'Église, pour moi, est le signe de ce que nous-mêmes nous devons faire. Autrement dit, l'événement, nous ne saisissons jamais en lui-même. Nous le visons à travers des interprétations. L'événement Jésus-Christ, c'est ce dont parle le texte. S'il n'y avait qu'un texte, il n'y aurait qu'une possibilité d'accéder à cet événement. Il y a plusieurs textes et donc une possibilité de viser différentes manières. Si vous prenez par exemple la question de la pauvreté, la pauvreté. Bienheureux les pauvres. Moi, je dis plutôt heureux les pauvres. Alors, vous avez l'interprétation qu'en donne Saint-Luc, qui est heureux les pauvres sociologiquement parlant. L'interprétation de Matthieu, heureux les pauvres de cœur, c'est-à-dire l'interprétation spirituelle. Et je pense que Jésus n'a parlé ni dans le sens de Matthieu, ni dans le sens de Luc. C'est une trois.
Il a été mal servi.
Non, parce qu'il a. Et c'est ça proprement. Le rôle de chaque époque est d'actualiser et d'appliquer la parole de Jésus. Cette parole de Jésus, me semble-t-il, a été une parole qui disait les pauvres sont les héritiers du royaume de Dieu. Dieu s'occupe des pauvres. Voilà ce qu'a voulu dire Jésus. Et j'arrive récemment du pays d'Amérique du Sud, où précisément j'ai été saisi d'une façon profonde et terrible par ce lien qu'il y a entre le royaume et les pauvres. Alors Jésus est un prophète, il parle. Et Luc applique, oui, vous qui êtes pauvres, vous par rapport aux riches, c'est pas pareil les pauvres et les riches. Et Matthieu dit, attention, il faut avoir l'esprit aussi qui est plein de cette pauvreté. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de texte sans interprétation. Et le texte. Et nous sommes liés non pas par Matthieu ou par Luc. Je vous demande de bien vouloir ne pas choisir. Vous feriez un Jésus révolutionnaire avec Saint-Luc, justement. Mais il y a les deux. Et c'est ça la complexité de notre foi.
Je voudrais qu'on parle tout à l'heure de l'interprétation, mais avant d'aborder ce problème, j'aimerais vous demander peut-être une question bien naïve, mais pourquoi Jésus-Christ n'a-t-il pas purement et simplement lui-même écrit ce qu'il avait à dire? Est-ce qu'il n'aurait pas été plus simple?
Ça, je ne sais pas qui pourrait entrer dans la conscience de Jésus et lui trouver un motif, d'abord. Ça, j'avoue que ça me dépasse complètement et je ne vois pas quel historien oserait répondre directement à la question. Mais ce qui semble vraisemblable, quand on regarde les manières dont les premiers successeurs, au IIe siècle, un certain Papias, l'évêque de Hierapolis, il disait, au moment où l'on a mis par écrit les évangiles, je préfère mille fois une parole vivante qui demeure. La parole vivante. Parce qu'en effet, entre la parole et l'écriture, il y a eu un rétrécissement ou un refroidissement tel qu'il s'agit maintenant pour nous de faire renaître la parole à travers un texte écrit.
Donc tout le problème de l'interprétation. Alors l'interprétation, quand même, ça n'est pas le fait de n'importe qui, c'est le fait de gens savants, d'historiens, parce que c'est quand même pas un profane comme moi qui peut prendre ça et lire ça d'une façon intelligente.
Ouais, je veux bien vous ranger parmi les profanes par rapport à un spécialiste. Je suis spécialiste, c'est vrai, mais je voudrais bien me garder d'être celui qui détient la clé du royaume des cieux. Je dirais que le texte est fait pour tout le monde.
Oui, je vous en prie.
Que chacun doit interpréter.
Mais justement, c'est là-dessus que je vous attendais, parce que vous l'avez écrit, ça. Ça m'apparaît assez audacieux, parce que je pensais, moi, justement, qu'en condamnant Luther, l'Église s'était réservée, justement, le droit à elle seule d'interpréter la parole de Dieu.
Je pense qu'en effet, toute interprétation, au sens catholique du terme, est une interprétation qui doit se faire dans l'Église. C'est dans l'Église que je la fais. Et donc, il y a une certaine conformité à la tradition. Mais le rôle de la tradition par rapport à moi-même, c'est là que je me distingue du dogmaticien. Pour un dogmaticien, c'est-à-dire un homme qui est chargé de transposer en termes d'ordre catéchétique ou pour aujourd'hui la vérité de l'ensemble du Nouveau Testament et de la Bible. Pour un dogmaticien, ce qui compte, c'est la tradition lisant l'Écriture. Le dogme, c'est cela, n'est-ce pas? C'est la tradition lisant l'Écriture. Un exégète, lui, il a une situation un petit peu plus gênée. C'est l'Écriture, mais non interprétée par toute la tradition. Alors, la foi, ou l'existence de la tradition en moi, va à la fois me gêner et m'aider. Autrement dit, ma foi est un présupposé dans ma lecture. Et en ce sens, je dois ne pas en tenir compte immédiatement. Tandis que la foi et la tradition entrent dans la lecture du dogmaticien. Pour moi, la foi donc me gêne et j'en fais un présupposé et j'essaye de l'écarter, ne pas en tenir compte immédiatement. Par contre, la foi est ce qui va me permettre de choisir dans la bonne direction.
Oui, c'est pas un certain si vicieux, ça, finalement. Je la mets de côté, puis je la récupère, de sorte
non,
que...
Non, pas du tout. Je suis agi par elle. Je suis conditionné par elle. Si vous prenez, par exemple, l'histoire des trois rois mages...
Hein, c'est un mythe, ça.
C'est-à-dire que, oui, c'est une invention, c'est une légende.
Une légende.
C'est une légende. Les trois rois mages, premièrement, il n'est pas dit dans le texte qu'ils sont rois. On ne dit pas qu'ils sont trois, mais on dit qu'il y a trois présents. Et si bien qu'à Cologne, vous avez 12 rois. Alors, l'exégèse consiste précisément à critiquer, à mettre à la question ce qui peu à peu a été transformé par la tradition. Vous savez que la piété a besoin de détails que nos évangiles ne donnent pas. Alors, des quantités de détails sont venues de l'imaginaire, de la... poétique ou la piété. Alors on invente, alors l'exégèse arrive et dit, mais ça n'y est pas dans le texte.
Alors vous purifiez, vous décantez.
Nous sommes chargés de purifier, de décanter. C'est là que l'accession à la liberté de l'exégète en 1943, avec l'encyclique Divino Afflante, ensuite en 1964, avec le décret sur les évangiles qui a libéré le concile, je m'en souviens très bien pour ma part, eh bien, cette libération du travail exégétique par l'accès aux méthodes dites scientifiques, eh bien, cette libération est vraiment le béaba de notre lecture. Et à ce moment-là, on a commencé à mettre en question des tas de choses, c'est sûr. On a compris, par exemple, qu'il n'y a une parole définitive que si elle est située dans son contexte. Et ça a été appliqué ensuite au problème dogmatique. Vous connaissez peut-être la plaquette de Walter Kasper, précisément dogme et évangile. Ou alors on a appliqué aux traditions, aux formulations dogmatiques, les méthodes des exégètes.
Mais alors à ce moment-là, est-ce qu'on ne risque pas justement de tout liquider? Est-ce que les exégètes et les historiens ne risquent pas finalement de faire apparaître l'évangile, l'ensemble des dogmes comme finalement extrêmement relatifs?
Oh Dieu merci, il y a le Saint-Esprit qui est là, qui nous empêche. Il n'y a pas de ce que nous admettons tous, c'est qu'il n'y a pas de contradiction entre la recherche scientifique et les données de la foi. Mais il y a parfois, apparemment, dans des problèmes de langage, il y a des heurts. Et je vois très bien, pour ma part, dans la question, par exemple, de la résurrection, ou à propos du langage utilisé sur la résurrection, les traditionnalistes, les gens habitués, ont été étonnés de constater que, par exemple, le langage de la résurrection n'était pas le seul langage, qu'il y avait aussi le langage qu'on appelle de l'exaltation.
La glorification.
C'est ça, oui.
Mais si on revenait justement à la question qui nous a fait faire un grand détour, n'est-ce pas, pour définir ce que c'est qu'un... Quelle connaissance vous est possible? J'oserais maintenant vous demander, n'est-ce pas, encore une fois, mais alors, pour l'historien que vous êtes, n'est-ce pas, ou pour un historien, que devient Jésus-Christ? Qui est Jésus-Christ?
Pour un historien, et ça a été là le premier travail que j'ai pu faire, Jésus, avant tout, est pour moi une question qui demeure. Une question qui est grosse de la réponse, mais c'est avant tout une question. Jésus n'est pas venu se promener et dire ici sur son veston, ici Jésus-Christ, ici le Fils de Dieu, ici le Messie. Non. Jésus a vécu de telle sorte que, en bouleversant les coutumes, en montrant l'étroitesse d'esprit des gens, il a montré que il fallait penser à autre chose. Et surtout, on se finissait par se dire, mais quel est donc cet homme? Et vous, qui dites-vous que je suis? Pour moi, c'est ça. Jésus est une question lancée dans le monde, et ceux qui prétendent répondre en l'éliminant, c'est là notre problème à nous, ils n'y répondent pas. Il faut maintenir Jésus comme question. Je ne pense pas que le rôle de l'exégète soit d'affirmer les données de la foi, l'exégète comme tel, n'est-ce pas ? Il a comme rôle de manifester clairement comment ce Jésus de Nazareth a vécu, et nous connaissons beaucoup de choses sur Jésus, ça. Je crois qu'on est un peu sévère pour les exégètes en disant qu'ils sont trop rationalistes. Pas du tout, nous avons une espèce de présence à Jésus de Nazareth qui est extraordinaire. Il y a une immédiateté de Jésus avec ses contemporains, ou une façon de parler avec son Père qui est extraordinaire. Alors pour moi, Jésus, par exemple, c'est quelqu'un qui a eu une relation unique, qui s'est dit, ça je crois que c'est historique, une relation unique avec son Père, et qui a prétendu avoir une relation unique avec tous les hommes. Alors, devant cette affirmation, je peux me demander, mais il est fou? Ou alors quoi? C'est une question. Parce qu'on s'aperçoit que c'est un homme normal, qu'il est accueillant, etc. Et il a dit des choses qui dépassent la commune mesure. Donc pour moi, Jésus est d'abord une question.
Mais une question donc que certains peuvent éliminer, que certains peuvent ignorer.
Pourrait ignorer, c'est ça. Alors le rôle de l'apologétique, cette apologétique est maintenant tellement décriée, parce qu'en effet, on l'a abîmée au début de ce siècle. On l'a abîmée. Eh bien, cette apologétique consisterait à empêcher les gens de se rassurer sur Jésus de Nazareth. On ne se rassure pas sur lui.
Alors, maintenant, et ça, c'est cette inquiétude précède toute foi, finalement.
Oui, je dis, s'il n'y a pas de question. Je me souviens, j'étais au Vietnam, et alors il y a eu, à un moment donné, il y avait dans l'avion un président de je ne sais quoi, l'Action catholique, qui me disait, oh, ma fille m'a raconté que les petites filles bouddhistes sont toujours premières en catéchisme. Mais c'est ce qu'il y a de pire. Apprendre la religion, mais c'est déflorer le mystère. Le mystère est toujours au-delà de notre prise.
Alors donc, votre rôle à vous, c'est simplement de conduire l'homme, le lecteur, moi, à ce mystère. À ce mystère qui, à cet homme qui se pose déjà comme mystère.
Cependant, je crois que l'exégète n'a pas seulement à dire cela, il a aussi à énumérer, à présenter les réponses qui ont été données à l'origine du christianisme. C'est-à-dire, les évangiles se présentent à nous non seulement comme l'évocation de cette question, mais aussi avec les premières réponses qui ont été données. Donc l'exégète a ce double rôle. Un rôle qui est, je dirais, purement historique, d'interroger les textes en dépit de la perspective qui était donnée la foi. Donc de remonter à Jésus de Nazareth tel qu'il a pu vivre. Et deuxièmement, il est aussi de dire comment il y a eu des premières réponses.
Alors quelles sont justement ces réponses?
Ces réponses sont variées. Par exemple, on est passé très rapidement de ce lien des miracles du royaume de Dieu. Je vous parle des miracles parce que c'est dans la tête en ce moment. Miracles et royaume de Dieu, qui était la donnée de Jésus. On a explicité ce qui n'était qu'implicite en disant ces miracles sont une sorte d'annonce de la messianité de Jésus.
Mais alors qu'est-ce que ça veut dire justement pour moi? Je regrette, je fais peut-être une espèce de va-et-vient continuel, mais un messie pour moi actuellement ça ne veut plus rien dire.
C'est-à-dire que c'est celui qui nous apporte le salut. C'est-à-dire, évidemment, ça suppose dans notre monde contemporain la difficulté, c'est que nous ne sommes plus dans un monde où le sens du péché existe encore. Nous sommes une religion de salut. Or, la religion de salut, qu'est-ce que ça dit à des gens? Cependant, je pense qu'elle est mal présentée souvent, mais je crois que si l'on revient à la mentalité de Jésus lui-même, on s'aperçoit que ce n'est pas tellement avec des catégories de causalité que l'on peut comprendre cela. D'habitude, on dit « Adam a péché et moi, j'en suis victime. » L'effet du péché d'Adam, c'est que le monde est mauvais. Bien. Jésus a mérité pour nous le salut.
Il est mort pour nos péchés.
Voilà. Eh bien, je dirais que cette manière de voir ne va plus aujourd'hui. Il me semble qu'il faudrait entrer davantage dans une anthropologie biblique pour laquelle l'homme n'est jamais séparable de l'humanité. Il n'y a, le bibliste, l'homme de la Bible, ne pense pas d'abord individu, mais d'abord peuple.
Collectivité.
Peuple. Le péché d'Adam, c'est celui qui a brisé la sphère de l'humanité. Et je nais dans une sphère brisée. Je nais, l'homme n'existe pas sinon par, relié à Dieu par son souffle. Je nais dans une sphère brisée. Jésus-Christ, a, lui qui n'a pas connu le péché, précisément à cause de la tentation, il n'a pas péché. Jésus est l'inaugurateur, celui qui commence une nouvelle sphère. Et je passe d'une sphère à l'autre, passer dans le Christ. Alors, ce n'est pas une causalité, je ne m'occupe pas de cela. Je dis que Jésus est celui en qui et par qui je trouve le salut.
C'est-à-dire, je trouve l'unité, si je comprends
bien. L'unité, la relation à Dieu qui me permet la fraternité avec les hommes.
Et la liberté.
Alors, la liberté, évidemment. Mais je dirais plutôt, d'abord, au point de vue du salut, j'étais en rupture avec Dieu et en Jésus-Christ, je retrouve le lien avec Dieu. Et ce lien avec Dieu, comme le disent si bien les prophètes, ce lien avec Dieu fonde et permet la relation avec les hommes. Il n'y a pas de justice envers Dieu s'il n'y a pas de justice envers les hommes.
Et je voudrais qu'on en vienne aussi à un problème assez fondamental que vous avez abordé, qui est le problème de la résurrection du Christ. Parce que finalement, tous ces évangiles nous annoncent un Christ, un Jésus, qui était mort et qui est vivant. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ?
La première chose qu'il faut dire, clairement, parce qu'on demande souvent, est-ce que la résurrection est un événement historique ? Ça, c'est la question classique. Moi, je demande, qu'entendez-vous par historique ? Si vous me dites historique, c'est constatable par tous les hommes.
Ça ne l'est pas.
Ça ne l'est pas. Ce qui est constatable par tous, c'est que Paul, c'est que les apôtres ont...
Prétendent l'avoir vu.
Non, attendez, que les apôtres et Paul disent l'avoir vu. Ça, c'est un fait historique. Paul dit, j'ai vu le Christ. Ça, c'est un fait historique pour moi. Mais ce qu'il a vu n'est pas historique pour autant. Pour apprécier la qualité de l'apparition à Paul ou aux apôtres, pour apprécier, pour voir, il faut un jugement clinique. Mmh. Un peu comme on le ferait pour Bernadette de Lourdes ou bien pour une hystérique de la Salpêtrière. Je ne sais pas chez vous comment on dit, quels sont les hôpitaux psychiatriques.
C'est ça,
mais
ouais.
Enfin, il y a là une nécessité de comportement social. Je constate que Paul, je constate que les apôtres n'ont pas été des hommes normaux. Et que cependant, avant, ils étaient comme ceci, et après, ils sont comme cela. Cette transformation est pour moi un fait historique. Mmh. Elle me pose une question. Mais le mystère comme tel, je ne peux pas dire la résurrection comme telle est un événement historique. Pourquoi ? Parce que la résurrection est un fait et un mystère. C'est affirmé tout à la fois que Jésus est sorti de la mort et il ne mourra plus. Quel est l'historien qui peut dire un homme ne mourra plus ?
Aucun.
Donc c'est pas au sens étroit du terme historique. Mm-hmm. Ce n'est pas choquant cela.
Mais alors comment comprendre justement cette importance de la résurrection ? Enfin comment accepter que
c'est fondamental pour moi parce que si le Christ est ressuscité, il n'est pas resté, c'est fini, quoi, c'est tout, ça ne va plus.
Alors donc, vous croyez ce témoignage de Paul, vous croyez... Parce que vous pensez que ce sont des gens sérieux.
Parce que, c'est ça, oui, et puis parce qu'alors aussi, j'ai eu la rencontre, de mon côté, j'ai été rencontré par Dieu. J'ai été rencontré par Jésus-Christ. Pour moi, la foi, c'est avoir été rencontré par quelqu'un.
C'est lui qui est venu au-devant de vous avant que...
Et s'il y a une caractéristique des récits d'apparition dans l'Évangile, c'est de bien noter l'initiative appartient à Jésus-Christ. L'initiative.
Mais quand vous dites que le Christ est vivant, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Ça veut dire que c'est un cadavre réanimé ou...
Oh là 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 là. Mon Dieu, ce cadavre, qu'est-ce qu'on en a fait parler ?
Parce qu'en fait, Lazare est ressuscité aussi.
Eh oui, mais lui, il est sorti les pieds et les poings liés.
Oui.
Oui, c'est très fort. Il est sorti de son tombeau avec les pieds et les poings liés. Ça veut dire qu'il était encore sujet à la mort. Avec Jésus, il a laissé les bandelettes dans son tombeau. Voilà ce que ça veut dire, cette symbolique des bandelettes. Mmh. Alors, il est vivant, ça veut dire qu'il ne peut plus mourir. Il est en état de perpétuelle relation avec Dieu. Et deuxièmement, il est vivifiant. Et pour moi, être que le Christ soit vivant, Cela me donne une certitude que je ne suis plus seul dans la vie et qu'un homme a traversé la mort. Parce qu'au fond, on se demande souvent, mais est-ce que... On se demande souvent, qu'est-ce que c'est que cet après-mort ? Si évidemment vous imaginez que le corps, c'est un amas de matière, hein, comme la plupart des gens le disent, c'est un amas de chair, alors ça ne va plus. Mais pour moi, le corps, c'est ce par quoi je m'exprime. Eh bien, l'affirmation du Christ vivant, ça veut dire que l'amour est plus fort que la mort. Il n'y a qu'une réalité, c'est l'amour. C'est l'amour reçu, c'est l'amour donné, et notre personnalité, ce qui fait que je suis moi et que je ne suis pas vous, par exemple, ce qui fait que j'ai mon histoire, et à jamais j'aurai mon histoire, eh bien, cette réalité de l'homme vivant, c'est celui qui précisément, c'est grâce à Jésus-Christ que je peux le dire. Par le fait qu'un homme a traversé la mort, que l'amour l'a fait... manifester de nouveau, eh bien, cela m'autorise à avoir cette certitude que moi-même, et je peux travailler ici-bas, car le Christ vivant, il ne faudrait tout de même pas s'imaginer que Jésus, dans un trône là-haut, solitaire, comme disait Giono, vous connaissez l'histoire de Giono ?
Non, je ne connais pas.
Ben, Giono a écrit un livre intitulé « Que ma joie demeure oui, ». Oui. On lui a reproché d'avoir supprimé du choral de Bach l'invocation « Jésus ». Et il a répondu « Jésus ! » Je ne veux pas, comme lui, traverser les batailles de la vie une rose à la main, pas chez Mitterrand, mais traverser les batailles de la vie une rose à la main et m'asseoir dans un ciel solitaire. Je m'intéresse aux hommes. Or, nous avons dans notre Nouveau Testament des passages comme la première aux Corinthiens ou bien l'Apocalypse, où Jésus est toujours à l'œuvre.
Père Mère Dufour, je vous remercie.